France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, Priorité Santé, aujourd'hui c'est une émission très particulière pour vous comme pour moi. Je vous l'annonce, c'est la dernière fois que je présente cette émission. Priorité Santé, vous le savez, existe depuis plus de 40 ans sur RFI. C'est Colette Berthoud qui avait lancé cette émission. J'ai eu la chance de prendre sa suite il y a 14 ans. Et c'est maintenant Caroline Paré qui va prendre les rênes de l'émission dès lundi. Je reste à RFI où je vais assurer la responsabilité de l'ensemble des magazines. Alors pour cette dernière émission que j'anime, je voulais faire un bilan des progrès dans le domaine de la santé en Afrique. Un bilan qui se veut optimiste. Nous allons faire de l'afro-optimisme. Quels sont les avantages et les grands enjeux aujourd'hui dans le domaine de la santé? On va bien sûr parler des progrès dans le domaine des maladies infectieuses, sida, paludisme, tuberculose, mais aussi des maladies non transmissibles, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies mentales. Pour en parler, deux invités en plateau, le professeur Olivier Bouchot, qui est responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU d'Avicenne à Bobigny en région parisienne, et Pierre Salignon de l'AFD, l'Agence française de développement, où il est responsable de la division en charge des relations avec les organisations de la société civile. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone de nombreux médecins sur le continent africain pour nous parler justement des progrès en Afrique. Professeur Olivier Bouchot et Pierre Salignon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette dernière émission que je vais donc animer. Quelles sont pour vous, Olivier Bouchot, si je vous le demande, les grandes avancées sur ces 15 dernières années? Vous êtes d'accord de dire qu'il y a eu d'énormes progrès? Moi, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, en 14 ans de présentation de Priorité Santé, on a progressé en Afrique.
Alors, on a progressé. D'abord, il y a des chiffres qui le montrent assez clairement. Et c'est vrai qu'on pouvait être un petit peu pessimiste dans les années 80 et 90. À partir des années 2000, il y a vraiment des avancées spectaculaires. Alors, moi, en tant qu'infectiologue, évidemment, j'ai un œil plus attendri et plus attentif sur ce qui se passe dans le champ des maladies infectieuses. Et il est clair qu'en matière de paludisme, on en reparlera tout à l'heure, il y a une avancée très importante. Hein. Le problème n'est pas réglé, ça reste un problème de santé publique majeur, mais il y a une avancée très importante en matière de VIH.
Baisse de la moitié des décès, en gros, on est sur ces chiffres-là.
Oui, on est de cet ordre-là, absolument. Hein. En matière de VIH, la partie n'est pas gagnée, mais on a appris... Et en partie grâce à l'Afrique, qu'on peut la gagner, ce qui est quand même déjà énorme. Il y a eu d'énormes avancées, même s'il y a encore énormément de chemin à faire. En matière de tuberculose, c'est peut-être encore moins net, mais ça progresse. En matière de diarrhée infantile, il y a eu là aussi des gros progrès. Donc, l'optimiste, il en faut. Il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. L'Afrique, quand on regarde là aussi les chiffres par rapport aux autres continents et par rapport à d'autres zones en développement, a encore un peu de retard, mais il y a un vrai élan. Et puis, il faut quand même bien prendre conscience aussi que l'Afrique... Et le continent qui va exploser, quand je dis exploser, c'est pas au sens négatif, c'est au sens de la démographie, mais aussi au sens du développement économique et du développement en général dans les décennies qui viennent, et que ça va forcément entraîner un cercle vertueux. Ça ira qu'à un cas, mais on peut réellement être optimiste.
C'est un continent à regarder de près d'ailleurs. Le président de la République, Emmanuel Macron, a autour de lui maintenant un conseil, justement, sur l'Afrique, d'où l'importance de ce continent pour la France. Pierre Salignon, vous êtes d'accord pour qu'on fasse de l'afro-optimisme?
Bien sûr qu'il faut être positif, parce que on pourrait parler aussi de la santé maternelle et d'autres éléments qui ont évolué positivement. Après, c'est les inégalités, elles sont fortes dans toute la région. Les Africains, c'est un humain sur sept maintenant, ça sera un sur cinq en 2050. Donc il y a des enjeux là de santé publique très très importants aussi. Et puis si on sort de la santé en tant que telle, on voit bien que c'est un continent qui est aussi confronté au réchauffement climatique, à des enjeux qui sont au-delà de ceux de la santé publique ou du système lui-même, et qu'il y a des éléments d'adaptation qu'il va falloir anticiper. Puis j'avais parlé déjà ici des maladies non transmissibles, du diabète, qui sont vraiment des enjeux pour le système de santé ou les systèmes de santé en termes d'adaptation, de peut-être changer les approche un peu verticale sur un certain nombre de maladies et avoir des approches beaucoup plus intégrées.
Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de toutes les pathologies, on ne pourra pas, mais c'est vrai qu'on fera un point à la fois sur les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles dont vous avez parlé. On va commencer par les enfants. On a progressé dans la lutte contre la mortalité infantile, mais il reste aussi des progrès à faire. Professeur Léon Tchilolo, bonjour.
Bonjour, Claire Hédon.
Vous êtes pédiatre, hématologue au centre hospitalier Moncolé à Kinshasa en République démocratique du Congo. Je voulais avec vous qu'on parle spécialement de la drépanocytose. Ça a d'ailleurs été une de mes premières émissions en public sur le continent africain il y a 14 ans. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. 300 000 bébés naissent chaque année atteints de drépanocytose. Elle provoque une déformation des globules rouges qui aboutit à des crises douloureuses intenses, une anémie grave avec un risque accru d'infection. La prise en charge de la drépanocytose s'est nettement améliorée dans les pays occidentaux, dépistage précoce, utilisation d'un médicament, l'hydroxyurée, antidouleur. Ces avancées, professeur Chilolo, sont-elles arrivées en Afrique?
Oui, l'hydroxyurée est la molécule, l'unique molécule qui permet d'améliorer le pronostic de la drépanocytose, est accessible dans les pays africains, bien que, malheureusement, le coût ne permet pas à ce que cette molécule puisse être utilisée par la majorité des patients. En ce qui concerne les antidouleurs, nous avons les médicaments du premier et deuxième palier, mais nous sommes encore quelque peu limités à l'accès à la morphine. La morphine qui fait encore peur à plusieurs praticiens et dont la vente est encore réglementée selon les dispositions internationales et qui fait que cette molécule n'est pas facilement accessible localement. En dehors de cela, il y a d'autres progrès. C'est l'utilisation de la pénicilline en prophylaxie, l'utilisation des vaccins anti-pneumocoxiques qui ont été pour la plupart introduits dans les vaccins PEV des pays africains. Et enfin, une chose qui est essentielle pour la drépanocytose, c'est l'accès à l'oxygène qui reste encore quelque peu limité dans certains hôpitaux.
Et le point important dans tout ça, c'est la question du dépistage. Est-ce que vous arrivez à justement dépister plus précocement les enfants ?
Oui, alors là, il y a une nouveauté qui est en train d'entrer dans le continent africain. C'est la disponibilité des diagnostics rapides de la drépanocytose. Il y a de plus en plus des outils qui sont proposés dans nos pays et qui vont faciliter justement ce dépistage précoce, comme le recommande l'OMS. En concret, il y a des centres africains qui ont un dépistage systématique de la drépanocytose. C'est le cas pour le centre hospitalier Moncolé, le cas pour le Bénin, pour le Mali et d'autres pays, l'Angola. Mais ces projets sont des projets pilotes. Maintenant, il y a une volonté politique d'en faire une politique nationale dans la majorité des pays. Mais il y a des limites, justement. C'est que pour avoir des laboratoires de référence, il faut l'énergie électrique qui n'est pas disponible dans les milieux ruraux, du moins dans la majorité des pays africains, et c'est là que les nouveaux techniques de diagnostic rapide vont faire leur part de contribution importante dans le dépistage précoce.
Professeur Chilolo, quels sont pour vous les grands enjeux aujourd'hui, si on parle de la santé des enfants?
Ben écoutez, les grands enjeux de la santé des enfants, je dirais c'est d'abord assurer la sécurité des familles, lutter contre la pauvreté, parce que ces deux éléments sont à la base d'une grande mortalité dans la majorité des pays africains en Afrique subsaharienne. Les autres enjeux, c'est l'éducation à la santé, l'éducation préventive, l'éducation thérapeutique au niveau des familles, mais aussi au niveau des institutions. Un des gros enjeux de plusieurs institutions, c'est la rétention des ressources compétentes, et pour cela, il faut évidemment leur assurer un salaire adéquat afin d'éviter justement l'exode des ressources compétentes.
En gros, je traduis, professeur Chilolo, vous en avez marre de voir des médecins formés sur le continent africain qui vont travailler dans les pays occidentaux.
Voilà, c'est cela. On en a marre de cette hémorragie de la substance grise africaine. Il faut trouver les moyens pour les retenir. Et parmi ces moyens, il faut évidemment les moyens économiques, mais aussi des moyens qui permettent aux Africains de se sentir utiles dans leur continent, c'est-à-dire un transfert de technologie qui se fait de plus en plus. Un transfert de technologie adapté, mais il faut de l'énergie électrique pour que ces équipements puissent être utilisés. Il faut des équipes de maintenance capables de secourir lorsqu'il y a des problèmes. Et il faut que ces Africains puissent avoir des réseaux de communication entre les scientifiques africains. Nous avons mis sur pied un réseau d'études de la drépanocytose REDAC qui permet d'avoir des congrès chaque 2 ans entre les pays africains. Et cela favorise justement le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud. C'est une des conditions fondamentales et un des enjeux majeurs de la santé de l'enfant pour les pays africains.
Professeur Olivier Bouchot, une réaction par rapport à ça, cette collaboration, elle se fait maintenant dans de nombreuses pathologies.
Oui, et je crois qu'un des points clés dans les enjeux, c'est de restructurer les systèmes de santé, c'est-à-dire d'avoir une approche transversale. Tout à l'heure, on parlait des grands succès dans un certain nombre de pathologies grâce à la collaboration internationale et avec des fonds internationaux, mais avec une approche très verticale qui marche bien pour la pathologie en question, mais qui parfois non seulement nuit aux autres pathologies plus ignorées ou plus abandonnées, et pire, qui parfois affaiblit l'ensemble du système de santé, parce que ça aspire les meilleurs vers là où il y a de l'argent et des moyens. Et dans des pays, notamment les plus faiblement développés, c'est quelque chose qui a réellement été démontré, et on a vu que ça tirait vers le bas le système de santé. Et je pense que le grand enjeu, et notamment avec l'aide et la coopération internationale, ça va être de continuer à financer des programmes verticaux et des programmes ciblés sur des maladies, mais à mettre un impact très important sur l'approche transversale et sur la restructuration des systèmes de santé. Je reste convaincu que si on se contentait de payer correctement les médecins, les infirmiers et les agents de santé de façon générale, dans les pays, notamment en Afrique, la santé serait absolument transformée parce que les compétences sont là, ce qui n'était pas forcément vrai il y a quelques décennies, mais les gens sont correctement formés. Ce qu'il faut, c'est les fixer sur place. Et on parlait de l'exode vers les pays riches, mais il y a aussi un exode local avec des gens qui sont tellement mal payés qu'ils font quelques heures dans les hôpitaux publics et puis après, pour vivre, ils vont faire du privé et dans des conditions qui ne sont pas accessibles à une majorité de la population.
Ou ils vont travailler dans les ONG parce qu'ils sont mieux payés, même dans leur
Absolument.
Pays. Absolument. Pierre Saïgnon, il y a une responsabilité là de l'aide au développement en général, d'avoir concentré l'aide sur certaines pathologies, d'avoir jamais voulu financer les systèmes de santé et les salaires. Est-ce que finalement, dans l'aide au développement, il n'y a pas un moment où on s'est un peu trompé, où on pourrait faire mieux ?
De toute façon, moi je partage ce qui vient d'être dit hein, sur les approches verticales et la nécessité de renforcer les systèmes de santé de façon intégrée, avec un gros effort sur les personnels et les moyens qui leur sont donnés. Mais bon, faut quand même faire un constat, l'aide publique au développement, elle est qu'une partie, elle est importante. Mais les dépenses de santé, elles sont réduites au détriment souvent de la qualité de l'accès aux soins dans bon nombre d'États africains. Il suffit de voir dans les budgets publics combien de pourcents du budget est consacré réellement aux enjeux de santé. Ça souligne quand même...
Les États africains s'étaient engagés à consacrer 15% de leur budget à la santé. Ils en sont tous très loin.
Ah, ils en sont tous très loin. Alors, les efforts internationaux visent à faire bouger les lignes. Et bon, quand on voit la mobilisation française en deuxième contributeur du Fonds mondial, hein, c'est 4,8 milliards d'euros depuis 2002. Ça a fait bouger les lignes, incontestablement. Maintenant, l'enjeu de tout ce qui tourne autour de la couverture universelle en santé devient un enjeu prioritaire en Afrique et ça pose plusieurs questions. Moi, je vois du point de vue de l'AFD, il y a à la fois un appui aux États, au secteur public, pour essayer de l'aider, de le structurer, d'aborder tous les sujets qu'on vient de pointer du doigt. Il y en a plein d'autres. Et puis après, il y a quand même l'essor du secteur privé qui accroît quand même les perspectives d'amélioration de l'accès aux soins, mais qui peut poser la question des barrières financières pour les plus pauvres. Et on est bien face à ces deux éléments. C'est à la fois des questions de gouvernance vis-à-vis des États les plus faibles et comment les accompagne et même comment parfois il y a de la substitution en mobilisant des opérateurs, des acteurs de la société civile, locale, internationale pour les aider à améliorer l'accès aux soins. Mais il faut arriver progressivement à faire que quand même le plus grand nombre des vulnérables aient un accès facilité. Et donc là, les questions des barrières financières, de la gratuité des soins pour un certain nombre, ou des exemptions de soins, plus que de parler de la gratuité générique, est un enjeu central pour une agence de développement comme l'AFD.
Professeur Léon Tchilolo, justement, une réaction par rapport à ça. On en est où des difficultés d'accès aux soins en République démocratique du Congo? On veut bien faire de l'afro-optimisme, on a progressé sur la santé en Afrique. J'ai pas le sentiment qu'en République démocratique du Congo, on ait beaucoup progressé.
Oui, évidemment, ça c'est pareil dans la majorité des pays africains. La santé est un droit que malheureusement plusieurs familles n'exercent pas encore. Tout simplement parce que toute la charge de la santé revient à la famille. On est en train de développer, soyons quand même optimistes, il y a des mutuelles qui se créent, des assurances qui sont en train de se développer, mais aussi pour revenir à ce que je venais d'entendre tantôt, il y a en RDC un effort de favoriser le partenariat public-privé qui permet justement de jouir de la bonne gouvernance de la majorité des institutions privées qui peut servir aussi de modèle et d'appui pour les institutions de l'État pour faciliter justement l'accès aux soins aux populations les plus démunies. Du moins, c'est ce que nous essayons de faire au centre hospitalier Moncollet.
Merci beaucoup, professeur Léon Tchilolo. Je rappelle que vous êtes pédiatre hématologue au centre hospitalier Moncollet à Kinshasa en RDC. Et ça a toujours été un grand plaisir de travailler avec vous. Professeur Ogobara Dumbo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de parasitologie à la faculté de médecine de Bamako au Mali. Vous travaillez au centre de recherche sur le paludisme. Vous participez à de nombreuses recherches pour de nouveaux médicaments et sur les candidats vaccins. 430 000 personnes sont décédées du paludisme en 2015, dont 90% en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans représentent l'essentiel de ces décès. Néanmoins, il faut le dire, en 15 ans, la mortalité liée au paludisme a chuté de 60%. Professeur Ogobara Dumbo, ces avancées sont-elles visibles de façon très concrète au Mali, même dans les zones reculées ou pas?
Absolument. Je pense que tous les pays africains au sud du Sahara ont bénéficié de cet effort international et se sont appropriés les stratégies les plus efficientes, les ont mises à échelle. Et au Mali, nous sentons cet impact donc, de ces stratégies sur la mortalité de moins de 5 ans et sur la femme enceinte.
Où en sont vos recherches sur de nouveaux traitements, puisqu'on a peur de résistance aux derniers traitements à base d'artémisinine, et les recherches sur de nouveaux vaccins, sur des vaccins?
Moi, je crois que la nouveauté qui permet maintenant d'impacter d'une manière importante et d'une manière saisonnière sur l'état de santé des enfants en matière de paludisme, c'est la chimio-prévention saisonnière des enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
C'est-à-dire qu'on donne un traitement à l'enfant, quand bien même il n'est pas encore atteint de paludisme, pour éviter qu'il attrape le palu.
Voilà, ça a été développé par un consortium de chercheurs africains en collaboration avec la London School et un financement obtenu de la Bill et Melinda Gates. Nous avons travaillé pour produire des évidences scientifiques qui permettent aujourd'hui au programme national de lutte contre le paludisme, d'avoir vraiment cette stratégie qui intègre les autres. Et dans les pays à transmission saisonnière, nous démontrons qu'on peut réduire en une saison de transmission 80% des enfants qui ne vont pas faire le paludisme et une réduction d'environ 20 à 60% de la mortalité hospitalière, ce qui est quelque chose de remarquable. Et on utilise deux médicaments très simples qui existaient et pour lesquels les parasites restent encore sensibles en Afrique, l'amodiaquine et la sulfadoxine pyrimethamine.
Et même chose pour les femmes enceintes. Est-ce à dire, une fois qu'on utilise finalement ce traitement en préventif ponctuel, que finalement le vaccin reste... Est-ce que le vaccin reste un enjeu ou pas dans cette histoire?
Non, mais ça reste un enjeu parce qu'avec les moustiquaires imprégnés d'insecticides, c'est la chimio-prévention saisonnière chez les enfants de moins de 5 ans, le traitement intermittent préventif chez les femmes enceintes, la prise en charge avec les tests de diagnostic rapide et les combinaisons thérapeutiques, la communication pour le changement de comportement, tous ces paquets mis à échelle à 80%, on peut impacter significativement sur la mortalité actuelle et aller vers la pré-élimination, ce que beaucoup de pays sont en train de faire, et les vaccins qui sont en cours de développement viendront comme un additif et avec une valeur ajoutée qui pour finir le travail d'ici 2030.
Donc, la phrase « on pourrait en finir définitivement avec le paludisme » est envisageable?
Ah, c'est vraiment envisageable. Maintenant, nous sommes de plus en plus convaincus que si la mise à échelle de ces stratégies s'est faite, l'appropriation par les communautés et par les États qui amènent encore un financement, je pense que le paludisme est à notre portée.
Merci beaucoup, professeur Ogobara Dumbo. J'aurais qu'un regret en terminant cette émission, c'est de n'avoir jamais pu partir en reportage avec vous en pays d'Ogon. J'aurais vraiment voulu faire ça. J'espère que Caroline Paré, qui va prendre la suite, aura la chance de faire ça avec vous. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler des avancées dans le domaine de la santé sur le continent africain depuis 15 ans.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous voyons quelles sont les avancées dans le domaine de la santé en Afrique depuis 15 ans. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Deux invités sur ce plateau pour en parler. Le professeur Olivier Bouchot, qui est responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny en région parisienne, et Pierre Salignon de l'AFD, l'Agence française de développement, responsable de la division en charge des relations avec les organisations de la société civile. Et juste avant les informations, nous avions en ligne le professeur Ogbara Dumbo. On parlait des avancées dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Vous avez envie de réagir, professeur Olivier Bouchot, parce que quand j'ai dit cette phrase « en finir définitivement avec le paludisme », puisque c'est l'objectif de la communauté internationale, vous avez fait une petite moue, on n'y est pas encore, c'est ça? C'est l'objectif, mais on n'y est pas encore.
Oui.
Et puis tout dépend des moyens qu'on se donne.
Pourquoi pas, et tout dépend des moyens qu'on va se donner. Mais c'est un peu comme pour le VIH, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on sait que c'est possible. Et quelque chose de très important, c'est que c'est pas un moyen de lutte qui permet de gagner la bataille, c'est l'intégration de 3 ou 4 moyens différents. En matière de paludisme, ça a été l'approche par le diagnostic véritable et notamment les tests rapides.
Le bon diagnostic.
Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on est en train de découvrir maintenant par des études qu'on aurait pu faire il y a 50 ans qui montrent que autrefois une fièvre égale paludisme et on redécouvre que la fièvre, ça peut être lié à la grippe, ça peut être lié à des maladies virales banales, à des infections banales. Donc, l'intégration d'un moyen de faire le diagnostic, d'un moyen simple et pas très très coûteux, de médicaments efficaces réellement mis à disposition, des moustiquaires imprégnés et puis des essais de démoustication au niveau collectif.
Et de ces traitements en préventif.
Et par ailleurs, effectivement, de l'approche
dont parlait Ogbara Dumbo,
mais qui est très ciblée sur des populations particulières d'enfants dans certaines conditions et des femmes enceintes. Et c'est l'approche intégrée de ces 4 moyens de lutte qui permet de montrer qu'on peut gagner la bataille.
Et on va parler, si vous le voulez bien, pas que des maladies infectieuses, mais aussi des maladies non transmissibles. On a au téléphone le professeur Roland Guetta. Bonjour Roland Guetta.
Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, on estime à plus de 17 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires dans le monde. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements africains ont pris la mesure pour faire face à cette augmentation des maladies cardiovasculaires?
Oui, j'ai bien cette impression, parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a des actions qui ont été menées à plusieurs niveaux. Premièrement, la création du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. C'est un outil gouvernemental essentiel pour le dépistage et la prévention de ces maladies cardiovasculaires. Et ces programmes ont été installés dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Deuxième action, c'est le renforcement des compétences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est le centre de référence et de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Donc le centre va être impliqué dans la prise en charge de toutes ces affections cardiovasculaires, depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge chirurgicale. Troisième point, comme action gouvernementale, depuis cette année, par exemple, le gouvernement ivoirien octroie une subvention spéciale annuelle de plus de 600 000 euros, plus précisément 610 000 euros, donc environ 400 millions de francs CFA, pour la prise en charge des patients à faible revenu, donc permettant ainsi l'amélioration de l'accès aux soins. C'est-à-dire que cette subvention pourrait permettre, par exemple, de prendre en charge 150 patients pour une chirurgie cardiaque, 100 patients pour des actes de cardio interventionnels, ou encore des patients qui devraient bénéficier d'implantations de stimulateurs cardiaques. Et dernier point, je pense, qui est tout aussi important, c'est les actions qui sont menées au niveau de la formation par les gouvernements, notamment en Côte d'Ivoire par le financement de la formation des médecins en spécialisation de cardiologie, en permettant à ces médecins d'être affectés comme fonctionnaires dans les établissements de formation.
Et pour vous, quels sont les enjeux dans ce domaine justement des maladies cardiovasculaires dans les prochaines années? C'est un dépistage par exemple de l'hypertension beaucoup plus précoce avec encore des patients qui vous arrivent très tardivement?
Absolument. En tout cas, le dépistage et la prise en charge efficace, j'avais dit globalement, des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier de l'hypertension artérielle dont vous parlez. Car on sait que très peu de patients hypertendus sont diagnostiqués, c'est environ un tiers. Ceux qui sont diagnostiqués ne sont pas tous traités, et ceux qui sont traités ne sont pas tous contrôlés. C'est véritablement un enjeu majeur, le dépistage et la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle en Afrique subsaharienne. Deuxième, enjeu, c'est le relèvement du plateau technique des unités de cardiologie dans les hôpitaux publics. En Côte d'Ivoire, on sait qu'on a eu la chance à l'Institut de cardiologie d'Abidjan d'avoir des avancées importantes, notamment dans la mise en œuvre de l'angioplastie coronaire, qui est une technique interventionnelle qui permet de prendre en charge efficacement les patients qui vont présenter un infarctus du myocarde. Et la Côte d'Ivoire, dans ce domaine, a joué un rôle leader en Afrique subsaharienne, notamment dans l'espace francophone.
Et maintenant, il faut décentraliser, parce que je dirais, quelqu'un qui fait un infarctus, s'il le fait à l'autre bout du pays, il n'a même pas le temps d'arriver à Abidjan.
Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà continuer à relever le plateau technique des unités des centres périphériques, mais aussi, on peut, par le biais de la télémédecine, contribuer à établir le diagnostic de ces affections dans des zones reculées.
Pierre Salignon, une réaction par rapport à ça. Dès le début de l'émission, vous avez parlé de ces maladies non transmissibles. On sent bien que c'est un enjeu. Est-ce que, alors j'ai déjà demandé, moi justement, si les gouvernements africains avaient conscience de cet enjeu-là. Est-ce que le monde de l'aide au développement, dont l'AFD, a aussi conscience de cet enjeu?
La demande des États évolue en termes d'appui aux politiques publiques, clairement. Et puis on le voit dans les programmes qu'on est amené à soutenir, à financer. On a pu, vous avez pu le voir, vous, quand vous étiez aux Comores. Il y a des pays d'Afrique aussi qui sont très allant dans ce domaine-là. C'est aussi une demande des personnels en termes d'évolution de leur environnement de travail, de leur capacité, de leur formation. Et c'est une demande des patients en termes d'organisation, d'association des malades, de la société civile, qui sont moteurs dans le fait de dire comment vous nous diagnostiquez, comment vous nous traitez, l'accès à l'insuline, si je prends le diabète ou ce genre de choses. Donc il y a une évolution, moi je trouve importante, et qui pointe du doigt à la fois la nécessité de continuer à appuyer la recherche sur les médecines, la médecine tropicale, mais pas uniquement. La nécessité, comme le fait l'AFD, de travailler sur les capacités de laboratoire, de venir à un certain nombre d'endroits du système de santé. Donc on travaille avec l'Institut Pasteur, on soutient le DNDI, le Drug for Neglected Disease Initiative. Donc,
qui mène des recherches sur les maladies
négligées. Ils élargissent aussi leur domaine. Et puis on voit aussi qu'il y a un enjeu autour de la production de médicaments à bas coût. Qui soit accessible au plus grand nombre. Et ce qui vient d'être dit sur la médecine ou la télémédecine est central aussi sur tout ce qui concerne les zones rurales. On voit bien qu'une partie de la population, parce qu'elle est en zone rurale, n'a pas accès aux soins, ou de façon très, très difficile, ou coûteuse, ou tombant dans la pauvreté justement à cause des coûts de santé.
Le prix des médicaments, Olivier Bouchaud, c'est vraiment un enjeu sur le continent africain important. On a bien avancé sur le sida, et encore pas sur les traitements de deuxième ligne. Il continue à y avoir des choses compliquées. Ça, c'est un des gros enjeux. Il y a toute une bataille à mener avec l'industrie pharmaceutique, alors faire comprendre quel est l'enjeu du continent africain?
Oui, ça tend une bataille à mener contre eux, ou je dirais plutôt avec eux, parce que c'est avec eux qu'on y arrivera. Mais il ne faut là aussi pas être non plus trop pessimiste. Il y a des aspects qui sont très révoltants dans la manière de fixer le prix d'un médicament qui n'a rien à voir avec son coût de production, la marge bénéficiaire, les coûts de recherche. Et maintenant, on fixe le prix des médicaments sur une espèce de vision très théorique de jusqu'à quand est-ce que les payeurs, c'est-à-dire pour l'Europe et pour la France,
la Sécu, l'assurance maladie,
est prêt à payer ou nous dira non, et on va monter jusqu'au maximum de ce qu'on peut, en faisant des marges bénéficiaires absolument considérables dont vous n'avez même pas idée. Mais à côté de ça, ces mêmes entreprises sont aussi capables de donner ou de vendre à prix quasiment coûtant. Donc, il y a une bataille à mener sur le prix, mais aussi il y a une bataille à mener sur les maladies orphelines, et donc les maladies qui ne bénéficient pas de la recherche privée, avec parfois des médicaments qui existent, parce que la recherche publique a pu mettre au point des molécules, mais développer ces molécules, ça coûte extrêmement cher, c'est pas le métier de la recherche publique, et on a besoin des entreprises privées pour développer ces médicaments-là, sauf que, comme c'est pas entre guillemets rentable, enfin on peut les comprendre, et il faut trouver une solution pour faire un petit peu un lien entre les deux, et le DNDI dont on parlait tout à l'heure a pour mission de faire ça, sauf qu'il peut pas le faire sur toutes les maladies.
Merci beaucoup Roland Guetta d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et on a au téléphone le professeur Jean Chrysostome Gaudy, qui est pédiatre et directeur du complexe pédiatrique de Bangui en Centrafrique. Professeur Jean Chrysostome Gaudy, bonjour.
Bonjour Claire.
Est-ce que vous êtes toujours le seul pédiatre en Centrafrique?
Bon, les choses ont changé depuis 2016. Nous sommes 5 maintenant. Un international béninois qui agit dans le cadre de nos activités avec l'organisation non gouvernementale Emergency. et puis deux jeunes pédiatres qui sont rentrés, l'une du Bénin et l'autre du Maroc, et puis une collègue qui est à l'ONES et qui est revenue dans le circuit gouvernemental depuis mars dernier. Donc ça fait 5 personnes avec moi.
Ça vous remonte le moral, vous n'êtes plus tout seul, c'est important. L'accès aux soins s'améliore-t-il en Centrafrique après le conflit qui a traversé le pays ou est-ce toujours le marasme ?
Ah, dans ce cadre-là, il faut distinguer ce qui est classique hein, et qui a été aggravé par ces conflits. Ce qui est classique, c'est la disparité déjà entre le monde rural et le monde urbain, où les moyens en diagnostic, en ressources humaines sont disponibles surtout au niveau urbain. Et puis, au niveau rural, bien sûr, ces problèmes-là persistent. Bon, mais vous comprenez que tout ça relève de la capacité des États, et en Centrafrique, c'est le cas, hein, à respecter donc les accords, les recommandations d'Abuja, qui n'est pas effectif. On est autour de 8% de financement, et encore, c'est pas effectif.
C'est ça. En Centrafrique, c'est 8% du budget consacré à la santé, alors que ça devrait être 15%.
15, c'est bien ça, voilà. Donc il y a cette disparité-là qui persiste, et bien sûr la pauvreté de la population aggravée par ces conflits, les déplacements et tout ça. Donc au niveau national, les choses ne sont pas améliorées. Maintenant, quand on vient au niveau sectoriel, sur la pyramide sanitaire, partant du centre de référence vers les niveaux intermédiaires et périphériques, à ce niveau, les choses ont nettement changé parce que on a travaillé très vite au niveau du seul centre de référence d'ailleurs, à contourner ce problème d'appui du gouvernement qui n'est pas suffisant, profitant de la présence de la communauté internationale, et puis aussi de ce qu'on avait observé déjà à l'orée de la prise en charge du VIH, où autour de 2004, on avait nettement constaté que là où les appuis arrivaient financiers, je veux dire, hein, ces centres travaillaient comme ils se devaient pour, à ce moment-là, nous approprier ces stratégies et faire en sorte que nous travaillions avec des opérateurs, notamment une organisation non gouvernementale qui a créé cette manière de faire, a créé la confiance donc au niveau de la communauté internationale, et qui a fait que bon, nos financements sont passés d'autour de 300 millions de francs CFA à aujourd'hui près de 2,5 milliards grâce à la présence de ces opérateurs. Et ça nous a permis de faire ce qui est essentiel aujourd'hui, la gratuité des soins, et qui a amélioré nettement au niveau du centre de référence l'accès aux soins, alors que au niveau intermédiaire où on compte encore sur le recouvrement de coûts ou alors sur une gratuité ciblée, les choses se passent pas très très bien et on voit comment le centre est utilisé en ce moment, on est débordé.
Professeur Olivier Bouchaud, je voudrais vous faire réagir sur cette question de la gratuité des soins. Moi, j'ai souvent entendu dire en reportage, les mamans sont pas raisonnables, elles font pas suivre leur grossesse, elles emmènent pas leur enfant dans les centres de santé. En fait, elles ont tout à fait envie de se soigner et de soigner leur enfant, mais souvent, elles n'ont pas d'argent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la pauvreté est le premier obstacle à l'accès aux soins. Donc la gratuité, c'est quelque chose d'important ?
Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Après, le terme de gratuité peut-être pas le meilleur terme qu'il faudrait utiliser, parce que les soins, les médicaments, a toujours un coût. Mais l'accès aux soins avec un coût minimum, voire l'absence de coût, est une question incontournable pour pouvoir améliorer la santé, et a fortiori dans les maladies chroniques. Et ça a été très largement démontré dans le VIH, où au début de cette ère où on a commencé à pouvoir vraiment avoir des moyens pour soigner les patients, certains pays imposaient un prix minimum qui n'était pas énorme, mais qui n'était quand même pas négligeable. Mais multiplier 5 000 francs CFA tous les mois pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans des foyers décimés, c'est un obstacle aux soins, et ça on l'a pu le constater. D'ailleurs, tous ces pays-là ont abandonné cette stratégie.
Pierre Salignon, est-ce que la communauté internationale, là-dessus, maintenant, devient d'accord sur le fait, alors je sais qu'on n'aime pas ce terme de gratuité, mais c'est quand même ça que le grand public peut comprendre, que c'est quand même ça la clé de l'accès aux soins. Enfin, c'est ce qu'on a expérimenté, nous, avec notre système de sécurité sociale.
Alors, sur la gratuité, et l'exemple de la RCA est intéressant, c'est qu'on est quand même face à une situation un petit peu d'exception sur un État d'une grande fragilité qui a vécu des événements et qui continue à en vivre autour des violences, et que la gratuité, à ce moment-là, l'ouverture, on va dire, de l'accès en santé primaire, à l'hôpital, etc., pour la population, est centrale pour maintenir le niveau sanitaire. Alors, à terme, se poseront dans une situation théorique stabilisée, la question de la mobilisation des ressources intérieures, de l'aide internationale, de la capacité des ménages à intervenir à travers des mutuelles. Il faut penser le financement de façon un peu élargie. On peut pas simplement penser gratuité, non gratuité, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Merci beaucoup, en tout cas, professeur Gaudy. On a maintenant au téléphone le professeur Serge Ollier, qui est médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville à Abidjan. Il est coordinateur adjoint du site ANRS en Côte d'Ivoire, l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. 328 millions de personnes sont porteuses à l'état chronique du virus de l'hépatite B ou C, maladies qui sont responsable de près d'1 340 000 décès tous les ans, soit presque autant que la tuberculose, plus que le sida. De grandes avancées dans les traitements avec l'arrivée du sofosbuvir et des agents antiviraux directs pour l'hépatite C qui permettent de guérir dans 95% des cas, et puis du tenofovir pour l'hépatite B. Professeur Géolier, ces traitements sont-ils réellement accessibles aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Afrique ?
Ils sont accessibles en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je crois que c'est les endroits que je connais le mieux. Mais il faut relativiser le mot accessibilité. On a des coûts qui sont nettement différents de ce que vous avez en Europe. On est entre 750 euros et 1500 euros le mois de le traitement curatif.
On est a priori autour de 30 000 euros en France. On n'a pas le chiffre exact, mais on est dans ces eaux-là.
Voilà. Et nous, on dirait qu'on est pratiquement nettement plus bas. Mm-hmm. Parce qu'on a un accès générique et un programme accès aussi des grandes firmes pharmaceutiques pour les médicaments des hépatites C. Mais quoi qu'il en soit, ça reste nettement inaccessible pour les populations qui souffrent des hépatites C. Donc, il faudrait réellement qu'à l'instar de l'infection à VIH, la tuberculose et du paludisme, il y ait une vraie initiative mondiale du traitement des hépatites B et C.
Et du coup, Serge Ollier, je voulais vous faire réagir à ce dont on parle depuis le début de l'émission. On parle des avancées dans la santé sur le continent africain. Mais je pense aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, mais dans leur quotidien, ils continuent à avoir de grosses difficultés d'accès aux soins. C'est quand même ça, professeur Ollier, le quotidien des Ivoiriens et des Africains aujourd'hui, c'est que les soins coûtent cher, c'est difficile de trouver un médecin, c'est difficile d'avoir un rendez-vous.
C'est pas difficile d'avoir un rendez-vous en Afrique. En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche un spécialiste, il faut d'abord qu'on comprenne qu'en santé publique, il faut que les infirmiers soient bien formés, il faut que les médecins soient bien formés aux soins généraux, aux soins primaires. Et ça, on est probablement en déficit de ressources humaines, globalement, sur le continent. Il s'avère qu'il y a des priorités que l'on a. On est très centré sur la santé de la mère et de l'enfant et sur certaines maladies endémiques dont j'ai parlé tantôt. Mais nous aussi, on pourrait dire que nous, les médecins, on a aussi difficilement accès aux populations. Ça se joue dans les deux sens. Les populations ont tendance à venir tard dans le recours aux soins. Ce dont je parlais tout à l'heure, on parle beaucoup de soins. On a quand même de grosses difficultés aujourd'hui pour le diagnostic de certaines maladies. Un exemple type aujourd'hui, ce sont les hépatites. On aura beau avoir les médicaments, s'il n'y a pas un programme d'accès complet qui part du diagnostic au traitement et au suivi de ces hépatites, on n'aura rien fait, même si on met les molécules à disposition des patients.
Merci, professeur Serge Ollier. On a au téléphone le professeur Aïda Silla, qui est professeur de psychiatrie au CHU de Fan à Dakar, au Sénégal, chef de la division santé mentale au ministère de la Santé du Sénégal. Un bilan sur la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas ne pas parler de santé mentale. Professeur Aïda Silla, bonjour.
Bonjour.
On sait que les maladies mentales touchent une personne sur trois au cours de sa vie dans le monde. C'est quoi le problème aujourd'hui sur ces maladies mentales en Afrique? C'est le manque de psychiatres? C'est le regard sur les maladies? C'est quoi?
Pour dire que c'est d'abord les psychiatres en nombre insuffisant, ça c'est un fait. Je pense que les familles, ces dernières années, ont pris conscience qu'il y a des structures où ils peuvent s'adresser, que ce n'était pas une fatalité, que c'était une maladie, parce qu'ils demandent de plus en plus des soins. Et je crois que ce qui reste, c'est un discours envers les autres médecins généralistes ou des autres disciplines, qu'ils sachent qu'il y a des choses à faire en termes de santé mentale. En d'autres termes, que ce soit des soins intégrés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et puis dans tous les autres services de santé. L'image caricaturale que je donne, c'est que quelqu'un qui fait n'importe quel malaise devant une structure hospitalière, elle est immédiatement admise pour qu'on lui prodigue des soins. Alors qu'on peut passer devant un malade mental aux alentours d'une structure hospitalière, mais on appellera toujours le psychiatre et on essaiera de l'acheminer vers une structure spécialisée de psychiatrie. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse comprendre qu'il s'agit d'un problème de santé avant d'être un problème de santé mentale.
Et vous trouvez quand même qu'il y a eu des avancées dans le domaine de la prise en charge de cette santé mentale au Sénégal et aussi sur le reste du continent africain?
Oui, parce que si je constate que les spécialistes sont quand même de plus en plus nombreux, on va vers une trentaine de psychiatres titulaires, sans compter ceux qui sont en formation et qui peuvent exercer à un certain niveau.
Mais professeur Aïda Sylla, est-ce qu'il n'y a pas encore plus de psychiatres sénégalais en France?
Je pense que cette tendance tend à s'inverser. Oui, dans le temps, c'était vrai qu'ils étaient presque tous là-bas. Mais
depuis, ça s'améliore un peu. Je suis désolée, professeur Aïda Sylla. La ligne téléphonique est en train de se dégrader. Ça a été aussi notre quotidien à Priorité Santé, les difficultés de ligne. Et pourtant, on a Laurent Hérault de l'autre côté de la vitre. C'est un des meilleurs aux manettes. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous faire réagir, Pierre Salignon. Peut-être un mot de conclusion sur ces 15 dernières années en termes d'évolution en santé en Afrique. On a senti de l'optimisme de votre part, mais j'imagine aussi encore des inquiétudes.
Certaines prudences, mais moi je pense qu'il y a un enjeu autour de la protection sociale et de la manière dont, autour de ces objectifs du développement des ODD et de la couverture universelle en santé, il faut structurer une approche des systèmes de santé qui soit beaucoup plus intégrée, où les patients, les malades ont un rôle majeur à jouer. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et moi, si vous me permettez, je pense qu'il y a des choses qui jouent beaucoup sur la prévention, on l'a dit, la place des femmes. La manière dont, autour des enjeux démographiques, la planification,
l'accès familial, à un moyen contraceptif,
l'espace des naissances, et puis tout ce que, liberté de donner des naissances sans risque. Donc là, il y a un enjeu positif. Ça a changé quand même dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de voie aujourd'hui qui est plus visible, qu'il faut soutenir. Et puis, on n'a pas parlé de ça ce matin, mais la place diaspora également. Elles ont un rôle central dans la manière d'échanger les savoirs. On parle certes de gens qui viennent travailler ici, mais c'est beaucoup plus dynamique qu'on ne le croit. Donc je pense qu'il y a des éléments positifs. Après, on voit bien que la croissance de ce continent amène à des inégalités fortes qui sont...
Qui se creusent d'ailleurs dans nos pays occidentaux, entre les plus riches et les plus pauvres.
Et donc bon, les enjeux de protection sociaux sont centraux, sont à mon avis ce qui va drainer une partie de l'agenda international ou de la politique de ces États. Il faut savoir les accompagner, c'est ce qu'on fait à l'AFD, avec des acteurs de la société civile bien souvent, donc des associations, on parlait du DNDI, on parlait après de l'Institut Pasteur ou différentes compétences, en fin de compte, d'expertise de santé publique française. Mais il est clair que les États ont leur avenir en main.
Professeur Olivier Bouchot.
Alors, moi, je voudrais dire trois choses. La première chose, c'est que je pense que dans les décennies qui viennent, la révolution numérique dans le domaine de la santé, ça va prendre une importance considérable et probablement encore plus en Afrique qu'ailleurs. Paradoxalement, je pense qu'il faut que les Africains fassent très attention à ne pas oublier leur thérapeutique traditionnelle. Et tout à l'heure, on parlait de la santé mentale. L'Afrique a inventé des thérapies freudiennes, entre guillemets, parce qu'on sait que maintenant Freud a pompé, a copié sur ce que faisaient traditionnellement certains tradipraticiens. Il ne faut pas perdre ça. Parce que c'est extrêmement efficace, il faut que ça soit complémentaire de la médecine moderne, entre guillemets, si ce terme-là a un sens. Et puis, troisième chose, on parle toujours du coût de la santé, sans jamais percevoir que investir dans la santé, c'est une condition indispensable au développement.
Et ça rapporte.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un pays, quels que soient les moyens financiers qu'on y mettrait, si la population n'est pas en bon état de santé. Investir dans la santé, c'est-à-dire aller au fameux 15% sur lequel vous étiez engagé, non seulement ça ne va pas vous faire effondrer l'économie de vos pays, mais ça va la booster.
Merci beaucoup à toute l'équipe de Priorité Santé qui m'a accompagnée ces dernières années, puisque c'est donc aujourd'hui la dernière émission. Alors Didier Bleu d'abord pour son calme, c'était utile face à mon agitation. Ophélie Lassène pour la rigueur dans son travail, son sens de la répartie. Assetou Samaké, ça a été un très très grand plaisir, Assetou, de travailler avec toi. Incroyablement consciencieuse, avec un sens de l'humour qui franchement rend la vie quotidienne au travail plus facile. Et puis les reporters, Tout Neuf Mandy, Philippine Lebret, Charlie Dupiot, qui nous dénichent des témoignages témoignages de patients indispensables pour cette émission. Une pensée spéciale pour Igor Strauss qui parcourt l'Afrique. Laurent Hérault de l'autre côté de la vitre qui, ce qu'on appelle dans notre jargon, cale tous les auditeurs. Priorité Santé existe depuis plus de 40 ans. C'est Colette Berthoud qui a lancé cette émission. J'ai pris sa suite il y a 14 ans. Et aujourd'hui, c'est Caroline Paré qui va reprendre les rênes de l'émission. Caroline Paré est une des voix de l'antenne que vous connaissez, qui vous accompagne depuis plusieurs années. Elle présente les journaux de la mi-journée. Une femme en qui j'ai toute confiance, qui sera à votre écoute. Caroline, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve donc dès lundi à la même heure.
Oui, un nouveau sujet. Pour moi, la santé, ce sujet qui touche chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Alors, je sais que pendant des années, je vais m'y faire. On va m'appeler Claire, Madame Claire, Madame Edon, Claire Edon. Mais ça tombe bien parce qu'en m'installant d'ailleurs ce micro de Priorité Santé, je compte bien, Claire, continuer sur votre chemin pour entretenir l'esprit d'écoute, de partage de cette émission vraiment pas comme les autres.
Bonne chance, Caroline. Pareil, pour ma part, je ne serai pas loin. Je reste à RFI. Je vais assurer la responsabilité de l'ensemble des magazines. Je viens d'être nommée adjointe à la directrice chargée des magazines. J'ai passé 14 années passionnantes, riches intellectuellement et humainement. J'ai rencontré des médecins formidables. C'est grâce à eux que nous pouvons réaliser des émissions de qualité. J'ai aimé réaliser tous ces reportages à travers le monde. J'ai particulièrement apprécié les échanges avec vous, les auditeurs. Vos questions, vos témoignages, la pertinence de vos propos. Continuez à participer nombreux. Vous contribuez à la qualité de cette émission. À très bientôt.